cours d'économie.
Budget 2025, adopté à l'Assemblée nationale et réélu au Sénat. Quel défi pour concrétiser ses investissements et son fonctionnement? Dossier à suivre dans ce magazine. Avec seulement 6% des bancarisations pour 80 millions d'habitants, le secteur bancaire en RDC enregistre une croissance des dépôts et des crédits. Défis, opportunités et impact de nouvelles technologies, selon l'Association congolaise des banques. Nous en parlons en marge de la Journée internationale des banques avec notre invitée Jolie Mbala, présidente de la commission conformité de l'ACB. Bienvenue à tous. D'abord cette nouvelle. 5 jours de réflexion intense sont prévus à Kinshasa à partir du 9 décembre prochain. Les états généraux du portefeuille de l'État vont réunir les acteurs clés de ces secteurs pour repenser le rôle des entreprises publiques dans le développement de la RDC. C'est la journée internationale de l'aviation civile, c'est jeudi 5 décembre. Quelle lecture faire de ce secteur en République démocratique du Congo? Écoutez ce qu'en pense Stravos Papayanou. Il est consultant aéronautique, ancien administrateur de l'ex-compagnie d'aviation Ewabora et de Blue Sky et actuellement président de Blue Sky Airlines.
Malheureusement, ce secteur n'a pas évolué. Nous avons régressé sérieusement, du moins dans l'industrie. Il faut savoir que dans l'aviation, il y a 3 branches. Le premier, aéroports. Le deuxième, c'est l'autorité de l'aviation civile. Ce n'est pas seulement l'AAC, c'est aussi le bureau d'enquête et analyse, c'est aussi la météo, donc tout ce qui est étatique. Et ensuite, nous avons l'industrie, les compagnies d'aviation, nous avons les centres de maintenance, les académies, différentes académies de pilotage, etc. Nous n'avons quasiment plus de centres de maintenance. Ce qui est là-dedans, c'est extrêmement chétif. Je me souviens, à notre époque, nous avions comme des centres qui étaient en progression constante puisque nous faisions les révisions aussi des moteurs d'avions, ce qui aujourd'hui est impensable. Je vois qu'il y a beaucoup d'avions qui sont loués. Très peu sont congolais pour faire l'exploitation commerciale. Soit ce sont des vraies locations, soit des locations un peu pour des raisons d'impôts. L'OACI a fait des audits. Bon, nous avons eu des résultats qui n'étaient pas très bons. J'ai cru comprendre que nous avons amélioré dans beaucoup de secteurs, dans l'aviation civile, mais par contre, nous avons régressé dans d'autres. Ce qui fait que, dans le total, nous n'avons pas encore réussi à convaincre l'Union européenne et les États-Unis comme quoi nous sommes aujourd'hui amenés à sortir de cette fameuse liste noire. Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement le matériel, hein. Il faut aussi voir aussi les gens, donc les tours de contrôle, les centres de contrôle, où les hommes ne sont pas formés. Nous avons un déficit incroyable de formation dans le personnel de contrôle et tout ça, et ça joue. Je sais que la SECNA a demandé plusieurs fois de pouvoir former notre personnel de contrôle aérien, ce qui n'a jamais abouti. D'autre part, maintenant, effectivement, sur le matériel qu'il y a sur les aéroports, nous n'avons aucune aide à la navigation, à part Kinshasa qui a quelques instruments parce que ce sont les compagnies aériennes étrangères qui l'ont placé, dont Air France, mais nous n'avons pas d'aide à la navigation calibrée suivant les normes de l'OACI. Il y a, je crois, qui est resté un semblant de formation pour le personnel de cabine, mais ça aussi, ça a fortement régressé. Pourtant, nous avions des excellents instructeurs, mais bon, tout ça nécessite des capitaux, nécessite aussi des aides du gouvernement, hein, à ce sujet-là. Sans ça, évidemment, ça ne peut pas tourner.
Le projet de budget 2025 examiné en seconde lecture mardi au Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale. Il est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards des francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024 estimé à 41 milliards de francs congolais. Ce budget prévoit allouer plus de 48% des ressources aux investissements et près de 52% au fonctionnement de l'appareil étatique. Comment ces fonds seront concrètement utilisés, Michel Kifindangoy?
D'après l'analyse des chiffres contenus dans les documents numéro 5, annexe explicative des prévisions des dépenses, ainsi que numéro 6 qui développe par titre d'estimation des crédits pour l'exercice 2025, les institutions du pays n'ont pas revu à la baisse le train de vie de l'État, à l'exception du Parlement qui a réduit son budget de fonctionnement de 14%. Sur les 10 grandes fonctions de la République, les services généraux de l'administration publique s'étalent la part de lion en consommant plus de 26% du budget, suivi par les affaires économiques avec 25%, l'enseignement près de 18%, la santé plus de 13% et la défense et sécurité 13%. Concernant les prévisions des dépenses par institution, la présidence de la République connaît une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 40% et 12% des rémunérations par rapport à 2024. La primature augmente aussi 25% de son budget de fonctionnement par rapport à 2024. Seule l'Assemblée nationale et le Sénat ont réduit de 14% les dépenses de fonctionnement. Quant à l'affectation du budget alloué aux investissements et au social, sur les 17,72% du budget de l'enseignement, seuls 5% seront affectés réellement au secteur de l'éducation. Les 12,22% autres sont regroupés dans une rubrique nommée « Autres affaires concernant l'enseignement ». De même pour le budget de la santé, sur les 13,28%, tous les secteurs de base allant de la pharmacie à la lutte contre les épidémies, passant par les services de médecine, des hôpitaux et des maternités, prennent seulement moins de 2%. Plus de 11% restants sont destinés aux autres affaires concernant la santé. En clair, sur les 31% destinés à la santé et à l'enseignement, 7% seulement seront réellement dépensés pour ces deux secteurs. Les 24% autres du budget 2025 sont destinés aux autres affaires non clairement définies. Quant au budget de défense et sécurité, 7,4% du budget sont destinés à la défense nationale et les 6% sont destinés à l'ordre, à la sécurité publique, à la protection civile, aux tribunaux ainsi qu'à l'administration du système judiciaire et pénitentiaire. Pour les secteurs générateurs des revenus, l'agriculture et l'élevage bénéficient de près de 7% du budget, suivi du transport routier 4,6%, 3,82% pour le développement rural. La construction des bâtiments et travaux publics prend 2,26% et 2,14% pour l'électricité.
Écho d'économie. 15 acteurs bancaires sont opérationnels en RDC et le taux de bancarisation demeure lui aussi faible, 6% pour une population d'environ 80 millions d'habitants, alors que la moyenne africaine, qui elle aussi est faible par rapport à d'autres continents, est de 15%. En revanche, les dépôts des épargnants dans les banques ont connu une croissance ces trois dernières années, passant de 14,6 milliards de dollars en 2021 à près de 16 milliards en 2023. Le portefeuille crédit a aussi connu une croissance de près de 30% dans la même période, passant de 4 milliards à 7 milliards de dollars. Les banques congolaises restent optimistes quant à cette tendance, surtout avec l'avènement de la fintech et des nouvelles technologies. Ces données nous ont été révélées par la présidente conformité de l'Association congolaise des banques, ACB, à l'occasion de la Journée internationale des banques, mercredi 4 décembre. Madame Joëlle Mbala nous parle d'abord des défis des banques en RDC. Bonjour Madame Bala.
Bonjour. Alors les défis majeurs, il y en a beaucoup, mais je vais en citer trois. L'instabilité au niveau économique et au niveau du pays, surtout avec la guerre que nous connaissons à l'Est, fait que cette situation constitue un frein pour certains investisseurs qui pourraient venir et contribuer à la croissance de l'économie. Donc, avec une économie qui n'est pas au maximum de son potentiel, ça a forcément un impact sur le consommateur congolais et aussi le secteur bancaire. Deuxième chose, ce sont les infrastructures, les routes, les systèmes de communication, le taux de pénétration de l'Internet. Lorsqu'on a un déficit en termes d'infrastructures, on a forcément une population rurale qui n'a pas accès aux services bancaires comme ce serait le cas des populations en milieu urbain. Autre chose, c'est le taux de bancarisation qui demeure faible.
Alors, Madame Mbala, dans un contexte mondial marqué par une digitalisation accrue, quelles sont les initiatives que l'Association congolaise des banques met en place pour promouvoir l'inclusion financière et l'accès aux services bancaires dans les zones les plus reculées?
Si vous regardez les rapports annuels de la majorité des banques aujourd'hui, vous verrez que la digitalisation ou la transformation digitale fait partie des priorités de la majorité des banques. Dans l'avenir, je crois que la banque classique telle qu'on la connaît aujourd'hui, où une personne se déplace physiquement vers une agence, cette banque est appelée à disparaître, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays. Donc le secteur bancaire congolais, s'il veut survivre, n'a pas d'autre choix que d'emboîter le pas. C'est pour cela que les banques commerciales ont décidé d'inclure dans leur stratégie la digitalisation. Et cette digitalisation passe notamment par des partenariats avec les sociétés de technologie financière, les fintech comme on les appelle. Et aussi, on voit que la Banque centrale, au niveau de la réglementation, a commencé à mettre en place des instructions pour soutenir en fait cette avancée. En dehors de ça, je pourrais aussi citer le canal USSD. C'est une possibilité pour des populations qui vivent en milieu rural et qui n'ont pas de smartphone ou qui n'ont pas accès à Internet de pouvoir accéder aux services bancaires en mettant un code USSD comme étoile, trois chiffres, et puis dièse, voilà, et avec des SMS pouvoir accéder aux services de la banque sans passer par des connexions Internet. On a aujourd'hui dans la majorité de nos banques des applications mobiles, la banque en ligne, l'accès à la banque via l'Internet. Ça, ce sont les initiatives mises en place par les banques.
La fintech, les produits digitaux, c'est très bien, mais la cybermenace est croissante aussi. Quelles mesures sont prises par l'ACB, l'Association congolaise des banques, pour garantir la sécurité des transactions et la protection des données des clients face à ces menaces?
Aujourd'hui, au niveau du pays, on a une nouvelle réglementation. On a eu le code du numérique qui a été publié et qui met en place toute une série d'exigences en termes notamment de protection des données. Très récemment, la RPTC a été désignée en attendant la mise en place des autorités chargées de réguler le secteur du numérique. Va jouer ce rôle-là. Donc, avec cette initiative et la publication du code du numérique, les banques, comme toutes les autres entités assujetties, devront mettre en place des normes pour assurer la protection des données. Ça, ce sont les initiatives au niveau réglementaire. Mais nous-mêmes, les banques, pour assurer même la sécurité des transactions, la confiance de notre clientèle et sauvegarder nos revenus, nous avons mis en place des mécanismes, des dispositifs en termes de sécurité pour préserver ou prémunir les transactions de nos clients contre des fraudes ou des cyberattaques. Nous n'avons pas le choix parce que c'est une question de réputation et surtout de revenus et d'expérience client que nous tenons à préserver.
Madame Bala Jolie, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Merci à Radio Okapi.
Ainsi prend fin Écho d'économie d'aujourd'hui. Polydor Bassung a été à la prise de sang, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Radio Okapi.